Bonjour à tous, notre lecture biblique se trouve dans le passage de Jude, versets 20 et 21. Notre lecture biblique se trouve dans le passage de Jude, versets 20 et 21, qui nous dit: Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Puisse le Seigneur nous ajouter sa bénédiction à la lecture de ses paroles et ce par quoi je vous invite sans plus tarder à notre méditation pour aujourd'hui. Bonjour, encore une fois, bonjour à tous, frères et sœurs. J'aimerais vous partager un message que j'ai intitulé, comme vous l'avez vu, dans l'atmosphère de l'amour divin. Mais avant de pouvoir arriver au vif et au cœur du sujet, j'ai besoin et nous avons besoin d'introduire la question. Voilà, je me suis permis de faire ça en semaine parce que c'est pour moi le plus facile. Les sabbats sont généralement le moins adapté pour moi, pour enregistrer. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais vous mettre ces pensées devant l'esprit, à savoir que nous, aujourd'hui, nous vivons dans une société où il est devenu très difficile de rester concentré. Le monde a augmenté ses connaissances et ses capacités technologiques au point d'abrutir l'homme et au point de le priver du sentiment de son besoin de préserver et d'exercer ses facultés intellectuelles. Nous ne ressentons, somme toute, que très peu ce besoin d'exercer et de préserver nos facultés intellectuelles parce que toutes les choses sont déjà faites pour nous. Toutes les choses sont déjà prêtes, prêtes à consommer, prêtes à écouter, prête à visionner. Et cette décadence-là, cette décadence morale et intellectuelle est exprimée de manière singulière dans le passage de Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu chapitre 24, ce fameux passage de ces paroles de Jésus en lien avec son avènement et les prédictions par rapport aux choses qui arriveraient avant son retour. Il disait dans Matthieu chapitre 24, verset 12, Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, ou plutôt l'amour de plusieurs se refroidira. On devrait dire en effet l'amour, parce que la charité de certains continue. Nous continuons les formes, nous sommes charitables, mais l'amour chrétien disparaît. Qu'est-il marqué? L'amour de plusieurs se refroidira. Et comment, et qu'est-ce que cela veut vraiment dire dans la pratique, dans notre vécu de tous les jours? Parce que la Bible, nous pouvons la lire, mais la comprendre, c'est souvent une autre histoire. En fait, ce que cela veut dire, ce qu'on peut en retirer, c'est que l'amour et le zèle chrétien se refroidissent. Qu'est-ce que c'était? Parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Et cet amour, ce zèle chrétien, se refroidit à mesure que l'iniquité prend des proportions de plus en plus grandes. Et notez bien que l'iniquité, quoique il y ait de toute évidence beaucoup de crimes et de vices qui sévissent dans ce monde sous diverses formes et manières, l'iniquité peut également consister à faire des choses parfaitement légitimes en elles-mêmes, mais toutefois dans un esprit de profonde insouciance et de profonde indifférence envers Dieu. La chose en elle-même est légitime, mais la manière et l'esprit avec lequel ces choses sont faites, c'est un esprit de totale indifférence envers Dieu. La chose peut être innocente, mais l'esprit peut être coupable. Et telle est, en beaucoup de cas, la nature de l'iniquité qui nous entoure. Il y a également l'iniquité dans le sens de faire le péché, faire le mal, mais il y a également l'esprit d'iniquité. Hein, comme c'était marqué du temps des antédiluviens, l'imagination du cœur des hommes était mauvaise sans cesse. Et cette imagination peut suffire à faire de nos actions une vie inique. Jésus disait, vous qui êtes ouvriers d'iniquité, écartez-vous de moi dans sa prévision sur ce qu'il dirait à ces personnes dans cette illustration, pas littérale, mais symbolique, de la condition dans laquelle de nombreux croyants en Jésus se retrouveraient lorsque la porte de la grâce sera fermée. Et ici, j'aimerais directement que nous nous tournions vers une citation de l'Esprit de prophétie qui se trouve dans le livre Jésus-Christ à la page 332 et paragraphe 2 qui nous dit le suivant au sujet justement de cette iniquité et de la manière dont elle vient obstruer, ou je dois dire directement refroidir et parfois complètement glacer notre amour chrétien. Il est écrit ici, que ce soit notre amour pour Dieu ou notre amour pour ceux qui sont censés ou qui aiment Dieu. Je lis ici, dans Jésus-Christ, page 332, paragraphe 2, où il est écrit, l'influence de Satan s'emploie constamment à distraire les sens, à diriger l'esprit vers le mal, à inciter à la violence et au crime. Elle affaiblit, hein, cette influence de Satan affaiblit le corps, elle obscurcit l'intelligence, elle avilit l'âme. Chaque fois que les hommes rejettent l'appel du Sauveur, ils se placent sous l'influence de Satan, c'est ce que font des foules de gens dans tous les domaines de la vie, dans les affaires, au sein des familles, même de l'Église, etc. On pourra peut-être lire la suite plus tard, mais j'aimerais que nous nous concentrions sur le cœur de ce que nous essayons ici de contempler afin de pouvoir progresser vers le but de notre méditation. Qu'est-ce que c'est? L'influence de Satan. Rappelez-vous, l'iniquité sera multipliée. En effet, aujourd'hui, elle l'est, sans aucune contradiction. Et cette influence de Satan s'emploie constamment à distraire les sens, à distraire nos sens. Qu'est-ce qu'ont nos sens? Nous en avons plusieurs. Il y en a cinq qui sont vérifiables. C'est la vue, l'ouïe, le toucher, ce que l'on ressent également. Donc ça, ça en fait quatre, je crois. Et le cinquième ici, je l'ai pas à l'esprit, mais c'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous pouvons toucher également, toutes ces choses sont les moyens par lesquels et à travers lesquels le diable cherche à nous distraire. L'influence de Satan s'emploie constamment à distraire les sens, n'est-ce pas? Et quel est l'un des sens ou certains des sens principaux qu'il utilise pour nous distraire? La vue et l'ouïe, n'est-ce pas? À travers les choses que nous visionnons ou les choses que nous entendons ou plutôt, je devrais dire, que nous écoutons. La musique joue un rôle crucial dans cette distraction, mais pas que. Il y a les choses que nous visionnons. À travers ces choses-là, Satan exerce son influence pour distraire. C'est parce que nous voyons, je n'ai même pas besoin d'énoncer, nous voyons exactement de quoi il s'agit ici. Son influence s'emploie constamment à distraire les sens, à diriger l'esprit vers le mal, à inciter à la violence et au crime. Et cette influence, que fait-elle? Elle affaiblit le corps. Que se passe-t-il à nous physiquement, physiologiquement, lorsque nous sommes ainsi distraits à travers les différents sens, hein, les avenues vers l'âme? Cette influence affaiblit le corps, elle obscurcit l'intelligence, elle avilit l'âme. Donc il y a ici une liste de choses plus ou moins grandes, hein, plus ou moins importantes dans cette direction de l'esprit vers le mal, cette orientation. Est-ce que c'est ce que nous voyons ici dans cet élargissement de ce passage de Matthieu chapitre 24 de l'iniquité multipliée? Et je continue. C'est pour cela que la violence et le crime sont répandus sur la terre et que les ténèbres morales couvrent, ainsi qu'un drame mortuaire, les demeures des hommes. Des ténèbres morales. Donc ce sont des ténèbres qui ne sont pas physiques, ce sont des ténèbres morales. Lorsque Dieu regarde les demeures des hommes, peut-être que ces hommes mènent une vie totalement vue de la surface, vue de l'extérieur, totalement correcte, mais l'esprit qui anime est complètement immoral et ténébreux. Et c'est pour ça que les demeures des hommes sont aux yeux de Dieu couvertes de ténèbres morales. Est-ce nos demeures? C'est ça la question que nous voulons examiner ici. Par des tentations subtiles, Satan entraîne les hommes toujours plus avant dans le mal, jusqu'à ce qu'il en résulte une corruption et une ruine totale. Contre sa puissance, il n'existe qu'une sauvegarde, la présence de Jésus. Nous allons pouvoir examiner cela. Et donc, lorsque nous continuons ici notre réflexion, nous voyons que cet effet de distraction contribue dans une très large partie à affaiblir notre vigueur morale. Je suis juste en train de paraphraser ce qui vient de nous être déclaré ici au sujet de l'affaiblissement de notre corps par l'influence de Satan visant à distraire nos sens. Qu'est-ce que cela fait? Cette influence, cet effet de distraction contribue à affaiblir notre vigueur morale. C'est-à-dire que moralement et intellectuellement, nous ne sommes plus aussi vigoureux. Nous ne sommes plus aussi sensibles. Pourquoi? Parce que à travers les différents sens auxquels il a accès, le diable cherche à diriger notre esprit vers le mal. Et à force que nous voyons le mal, que nous contemplons le mal, que nous entendons le mal, que se passe-t-il? Nous perdons notre vigueur morale. Non seulement morale, mais intellectuelle et spirituelle. C'est ce qui est réellement l'objectif de l'ennemi. Et tout ceci, ici, ça qui va d'ailleurs nous intéresser, toute cette activité s'inscrit d'ailleurs dans le contexte du scellement des 144 000. C'est ce que nous lisons à travers la citation de premiers écrits à la page 44 et au premier paragraphe. Et dans le contexte ici, elle parle de différentes manières à travers lesquelles Satan attaque les saints. Elle parle au début de ce paragraphe au sujet de la manière dont il touche le corps des saints. Mais ce n'est pas la manière unique. D'ailleurs, nous venons de voir que principalement, il se dirige vers la distraction de nos sens. Donc, il touche les saints lorsque les saints préservent leurs sens. Mais il y a également toutes ces avenues à travers, il cherche à distraire les âmes. Et nous voyons ici le passage de premiers écrits, page 44, paragraphe 1, qui nous dit ceci. « Oh, que j'aimerais que tous puissent voir cela comme je l'ai vu, afin de mieux connaître les ruses de Satan et de se tenir sur leur garde. J'ai vu que Satan était ainsi à l'œuvre pour distraire, séduire et décourager le peuple de Dieu au moment même du scellement. J'ai vu que certains croyants n'étaient pas fermes dans la vérité présente. Leurs genoux étaient chancelants et leurs pieds glissaient parce qu'ils ne reposaient pas solidement sur le terrain de la vérité. Le manteau du Tout-Puissant ne pouvait pas les couvrir aussi longtemps qu'ils chancelaient ainsi. » Et si vous regardez dans l'esprit de prophétie cette expression « manteau du Tout-Puissant » ou « manteau de Dieu », elle est directement synonyme du sceau de Dieu. Ce manteau, c'est le sceau, c'est la protection, c'est lorsqu'ils sont scellés, ils sont protégés en harmonie avec les paroles et le passage d'Ézéchiel chapitre 9. Et donc, qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit ici? Elle dit « si seulement on pouvait connaître les ruses de Satan et nous tenir sous nos gardes, j'ai vu que Satan était ainsi à l'œuvre pour distraire, séduire et décourager le peuple de Dieu. » Quand? Au moment même du scellement. Donc au moment même où Dieu est en train de faire tout dans son possible pour sceller ses enfants, c'est là où nous sommes profondément, totalement, mais par la grâce de Dieu, pas irrémédiablement, distraits. Nous sommes distraits, nous ne sommes pas concentrés, et c'est ce que nous cherchons à non seulement comprendre, mais à remédier. Nous voulons remédier à cela. Nous ne voulons pas uniquement condamner, mais nous voulons solutionner. Nous ne voulons pas uniquement condamner, mais nous voulons solutionner. Toutefois, nous voulons que l'Esprit de Dieu amène cela si clairement devant notre discernement, devant les yeux de notre âme et de notre esprit, que nous puissions être saisis d'une motivation inverse. Saisis d'une motivation qui va dans une direction qui est opposée à toutes ces distractions, à toutes ces séductions, et par extension à tous ces découragements. Parce que lorsque nous sommes distraits et que nous perdons notre vigueur morale, intellectuelle et spirituelle, et bien au bout d'un moment on se décourage et on dit voilà, j'ai perdu tout ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire, je suis inutile maintenant, je n'ai même plus la vigueur pour penser, pour dire, pour exprimer, pour prêcher, pour encourager, pour exhorter, pour corriger, je ne sais plus. Hein, vous vous rappelez Élie et ses enfants qui étaient dans le sacerdoce hébreu? Élie, il n'avait plus vraiment les paroles pour les réprimander, parce que lui-même il n'était pas droit envers Dieu, donc c'était un homme qui ne réprimandait pas ses enfants, et ensuite ses enfants ils faisaient pire et pire et pire. Et David, lorsqu'il avait commis ses péchés odieux, et bien par la suite il n'avait plus la vigueur pour pouvoir corriger les hommes en vertu des paroles et des principes de la loi de Dieu, non, parce qu'il avait lui-même fait le mal, et donc il trouvait cela tellement plus difficile maintenant de corriger les hommes qui faisaient le mal qu'il avait fait, et pire. Vous comprenez? Et donc nous continuons notre réflexion par cette question. Qu'arrive-t-il lorsque nous avons permis à l'ennemi, par son influence, comme nous l'avons lu ici, de nous distraire ainsi? Qu'arrive-t-il? Que nous arrive-t-il? On le lit ici dans cette citation longue mais importante de Christian, je crois que c'est Christian Education, à la page 136 et au paragraphe 1, où il est écrit ceci. Il est vrai que la simplicité de la vraie piété s'est largement perdue dans l'Église et que beaucoup de ceux qui prétendent suivre Christ sont devenus si aveugles qu'ils pensent que le gain est la piété et qu'ils consacrent leurs énergies aux choses de ce monde, aux choses temporelles. Ils ne se rendent pas compte que toutes leurs capacités intellectuelles ont été achetées par Jésus et qu'ils devraient lui consacrer les meilleurs résultats de leurs pensées afin de faire avancer sa cause. Mais au lieu de donner leurs idées claires et nettes pour faire avancer la cause, pour fortifier et bénir l'Église, ils consacrent toutes leurs forces au développement de leurs propres intérêts. Ils ne rassemblent pas avec Christ, mais éloigne les gens de lui par leurs paroles et par leurs actes. Ils entourent leur âme d'une atmosphère néfaste à la spiritualité. Ils professent être des disciples de Christ, mais ils ne le connaissent pas par une connaissance expérimentale. Ils ne pratiquent pas la religion. Ils ne cherchent pas à devenir chrétiens de la même manière qu'ils apprendraient un métier. Ils affirment croire en une vérité avancée, mais il est évident qu'ils la gardent dans le parvis extérieur. Car elle, la vérité, n'exerce pas une influence sanctifiante sur leur vie et sur leur caractère. Ils ne se rendent pas compte de l'importance des enjeux, car le salut de leur propre âme et de celle des autres est en péril. Ils ne se rendent pas compte que pour être une odeur vivifiante donnant la vie, ils doivent se soumettre à une discipline et à un entraînement spirituel, et ils doivent apprendre à l'école de Christ. Sans cette discipline spirituelle, ils deviennent inefficaces, ignorants et sous-développés, et ne voient pas la nécessité d'une formation et d'une connaissance spirituelle qui les qualifierait pour occuper des postes d'influence et d'utilité. S'ils ne se consacrent pas entièrement à Dieu, en devenant des élèves à son école, ils accompliront un travail irrégulier qui nuira à l'Église. Nous venons de lire ici au sujet de personnes qui ont perdu la vraie piété, la puissance de la piété, la force de la piété, comme nous le lisons, je crois, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Lorsque les hommes seraient dans une telle condition morale, intellectuelle, spirituelle, qu'ils substitueraient la force de la piété pour sa simple apparence, n'est-ce pas? N'est-ce pas exactement ce que le diable cherche à faire lorsqu'il distrait nos sens? Nous préservons notre profession, l'essence de qui nous sommes en tant que chrétiens est aspirée. Le diable cherche à aspirer l'essence de notre profession de foi. C'est ce que nous venons de lire ici, à savoir... qu'est-ce que c'est? Ils professent être des disciples de Christ, mais ils ne le connaissent pas par une connaissance expérimentale. Nous sommes appelés à connaître Christ, Jésus, par une connaissance expérimentale, c'est-à-dire par une connaissance qui constitue à mettre en expérimentation la parole de Dieu, à expérimenter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais si nous avons juste la parole de Dieu dans notre tête, mais pas dans nos gestes et dans nos actes et dans nos pensées, alors il est dit de ce genre de personnes, ils ne pratiquent pas la religion. Ils ne cherchent pas à devenir chrétiens de la même manière qu'ils apprendraient un métier. Wow, ça fait mal, non? Mais si nous réfléchissons ici, est-ce que nous cherchons à devenir chrétiens de la même manière que nous avons appris ou que nous apprenons encore que nous apprenons un métier? Comment est-ce que nous apprenons un métier? Nous l'apprenons de telle manière que nous pouvons être utiles, efficaces, productifs. Mais sauf que lorsque nous apprenons la religion de Jésus, nous l'apprenons uniquement pour augmenter nos connaissances, nous rendre sages aux yeux des hommes, mais pas pour être utiles, pour être productifs, pour être efficaces. C'est ça en réalité que nous devrions chercher à faire de notre religion. Nous avions lu également, ils affirment croire en une vérité avancée, mais il est évident qu'ils la gardent dans le parvis extérieur. Le parvis extérieur, donc ils avaient cette représentation de l'ancien sanctuaire hébreu dans le désert, et d'ailleurs par la suite lorsqu'il fut fait de roches et de pierres lorsqu'il était en dur dans la ville de Jérusalem. Mais si vous regardez dans le désert, vous avez cette première esquisse et ce premier sanctuaire, et lorsque vous rentriez, vous aviez le parvis extérieur, là où il y avait l'autel des sacrifices. Ensuite, vous aviez l'endroit où ils se lavaient les sacrificateurs se lavaient les pieds. Et ensuite, vous entriez dans le lieu saint. Et ensuite, par la suite, une fois l'an, le lieu très saint. Mais ici, le concept de personnes qui ne pratiquent pas la religion est symbolisé comme si la vérité était uniquement dans le parvis extérieur. C'est-à-dire que jamais nous prenions le sang pour l'asperger sur les cornes à la fois de l'autel des parfums ou même de la table des pains de proposition, etc. Et donc cela fait qu'en réalité ce n'est qu'une religion de forme. Et c'est précisément ce que nous avons lu ici, et tout cela est, si vous regardez, frères et sœurs, si nous réfléchissons, tout cela n'est qu'une conséquence inévitable de nous être laissés distraits. Alors, bien entendu, je parle au nom de nous, mais exempt de tous ces péchés de cet âge, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, mais attention, parce que lorsque nous croyons que nous tenons debout, c'est là que nous pouvons tomber. Et donc, en tant que personne qui moi-même est tombée très bas, j'aimerais contempler avec vous l'essence des choses que nous sommes ici en train de lire afin que nous puissions être exhortés et édifiés et encouragés à sortir de cette stupeur, de cette léthargie dans laquelle il est si facile pour nous aujourd'hui, alors que les capacités technologiques et de connaissances ont tant augmenté que nous pouvons simplement rentrer dans le courant et partir jusqu'à rentrer dans la mer du monde pour ainsi dire. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est l'atmosphère dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. Et nous voulons le voir à travers la parole de Dieu ici. Nous voulons réfléchir grâce à la parole de Dieu. C'est d'ailleurs l'une des choses qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes tant nourris de connaissances, tant nourris même parfois de savoir biblique, que nous perdons la faculté de raisonner à travers la parole de Dieu. Vous savez, raisonner à travers la parole de Dieu, ce n'est pas juste lire un chapitre. C'est faire une étude de mots-clés. Et c'est à travers ce genre d'étude, si toutefois nous le faisons afin de pratiquer la religion, que nous pouvons vivre et expérimenter tout d'abord la parole de Dieu et faire une expérience d'édification. C'est-à-dire que notre esprit va être édifié. C'est-à-dire édifié, c'est-à-dire construit. Construit, ça veut dire développé. Développé, c'est-à-dire c'est développer nos facultés intellectuelles et par conséquence nos facultés spirituelles. Parce que au fur et à mesure que nous augmentons notre connaissance, ainsi la parole de Dieu nous apprend et nous encourage à également augmenter notre vie, notre pratique. Donc sans plus tarder, je lis 1 Jean chapitre 5 verset 19. Comment l'esprit de prophétie, non, comment la parole de Dieu exprime en termes extrêmement succincts l'atmosphère dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Et donc, qui disait cela? Et c'est ça qui est intéressant. L'apôtre, Jean, en lien avec tous ceux qu'il connaissait comme ayant une expérience personnelle avec Jésus, comme sauveur personnel, disait « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. » Donc pour nous, il nous reste encore à obtenir cette assurance. Nous pouvons l'obtenir, peut-être nous l'avons obtenu sans doute, mais encore nous faut-il l'obtenir présentement et la préserver présentement, l'assurance que nous sommes de Dieu. Et nous pouvons savoir cela si nous arrivons à être assurés que nous ne sommes pas avec le monde entier également plongés dans le mal. Nous avons vu, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez? Nous avons lu que au sujet de cette influence de Satan, qu'il cherche, il est à l'œuvre pour distraire, séduire, décourager le peuple de Dieu. Et plus haut, nous avions lu que il cherche à affaiblir le corps, obscurcir l'intelligence, avilir l'âme. Le monde entier est plongé dans le mal, et c'est ce qu'il cherche à faire également, pas uniquement pour les hommes du monde, mais pour ceux qui font profession de foi en une vérité avancée. Il cherche à les rabaisser, à les plonger dans le mal avec le monde. C'est ça son objectif. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils devront porter leur propre péché. Et le diable dit, je cherche à faire en sorte qu'ils gardent leur péché et la culpabilité et le châtiment de leur péché. Je n'en veux pas. Parce qu'il sait très bien que ceux qui seront à jamais justifiés et scellés, ceux-là verront leur péché finalement posé sur le bouc Azazel, qui n'est autre que le symbole de Satan. Il devra porter leur châtiment de tous les péchés qu'il leur a fait commettre. Et nous ajoutons à cela la contemplation du passage de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. Et cette perspective est tellement essentielle parce qu'elle nous permet de mettre réellement un nom sur les expériences par lesquelles le diable cherche à nous distraire. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il sait. Il sait très bien que si nous sommes plongés avec le monde dans le mal, alors nous paierons pour le mal que nous avons fait et lui n'aura pas à payer pour ce mal-là. Donc il cherche simplement à réduire la facture finale pour lui-même. Sauf que nous, après, c'est nous qui allons devoir la payer. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. De Corinthiens chapitre 4 verset 3, nous lisons que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous réalisez ici? Je ne sais pas si vous arrivez à saisir de quoi cela parle. Parce que ici, nous lisons que si l'évangile, notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En d'autres termes, les personnes qui rejettent l'évangile vont périr. Et les personnes qui sont en voie de perdition et qui aiment les ténèbres plus que la lumière continueront de voir l'évangile comme quelque chose de voilé. Et pour qui est-il voilé? Pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Nous allons lire quelque chose juste après au sujet de l'aveuglement. Au sujet de l'aveuglement. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules de ceux qui périssent. Mais alors dites-moi, si nous faisons profession de foi en une vérité si avancée, mais que nous-mêmes nous ne croyons pas suffisamment à la vérité pour la pratiquer, que nous ne pratiquons pas la religion, est-ce que nous ne sommes pas alors, nous aussi, des incrédules plongés dans le mal avec le monde entier? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit. Donc si notre esprit est aveuglé, en effet, l'évangile nous sera voilé et nous serons dans cette condition que nous avons vue décrite à travers toutes les déclarations précédentes que nous avons explorées. Donc le monde, ici c'est cela, le monde est dans cette condition où les hommes sont aveuglés. L'atmosphère de ce monde, c'est une atmosphère d'aveuglement où la puissance de l'évangile leur est voilée. Et si nous buvons aux sources de ce monde, nous serons affligés des mêmes maux qui affligent le monde, à savoir cet aveuglement. J'aimerais lire ici avec vous l'esprit de prophétie dans cette déclaration qui se trouve dans Instruction pour un service chrétien effectif à la page 66 et au paragraphe 3 qui nous dit ceci. Dans leur aveuglement, les hommes se vantent de progrès merveilleux, de lumière nouvelle, alors que les agents célestes ne voient sur la terre que corruption et violence. À cause du péché, l'atmosphère de notre monde est devenue semblable à celle d'une maison de pestiférés. La question c'était, quelle est l'atmosphère dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui? Sir White disait à son époque, et à combien plus forte raison c'est vrai du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, elle disait, à cause du péché, l'atmosphère de notre monde est devenue semblable à l'atmosphère d'une maison de pestiférés. Un pestiféré, c'est quelqu'un qui est atteint de la peste. La peste, c'était une maladie qui était connue comme étant fortement contagieuse et qui fit des ravages pendant le Moyen-Âge. Qui en fut d'ailleurs par la suite, mais jamais dans de telles proportions. Et donc, une maison de pestiférés, c'est une maison de personnes qui s'en vont mourir. Et le monde est dans une telle atmosphère, plongé dans le mal, le monde entier est plongé dans le mal. Nous avons vu dans 1 Jean. Nous avons vu qu'il s'agit d'une incrédulité, d'un aveuglement de l'esprit, d'un voile vis-à-vis de l'évangile. Un voile vis-à-vis de l'évangile. Maintenant, nous voulons poursuivre ici afin de pouvoir non seulement condamner, non seulement mettre en lumière, mais remédier. Quels conseils, frères et sœurs, nous sont donnés aux enfants de Dieu pour s'affranchir de cette atmosphère? Nous avions un indice que j'ai passé sous silence brièvement, qui est une évidence, mais les évidences, ça ne suffit pas pour nous. Nous avons besoin de réelles solutions qui, d'une part, mettent en lumière nos vrais problèmes actuels dans la société dans laquelle nous vivons, dans le monde dans lequel nous vivons, et qui aussi nous aident à nous saisir de conseils adaptés. Vous lisez avec moi le passage de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui nous dit le suivant. L'apôtre Paul dit ceci, Esprit de Dieu. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. » et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Qu'est-ce que c'est? Quel est le conseil qui nous est donné pour nous affranchir de cette atmosphère? Et non seulement nous affranchir, mais nous plonger dans une autre atmosphère, hein, celle qui est l'objet de notre méditation aujourd'hui, l'atmosphère de l'amour de Dieu. Nous allons explorer cela. D'une part, nous le voyons ici comme une introduction, mais nous voulons... Donc, qu'est-ce que c'est? Romains chapitre 12, nous sommes exhortés à plusieurs choses. D'une part, à nous offrir à Dieu en sacrifice. C'est-à-dire que si nous ne nous offrons pas à Dieu en sacrifice vivant, volontaire, saint, agréable à Dieu, si nous ne nous abandonnons pas à Dieu, alors c'est évident que nous nous abandonnerons aux suggestions du diable. Et il en a à foison, il en a tellement que on dirait que c'est comme s'il a produit un nombre infini de distractions. Donc si nous ne nous abandonnons pas, nous ne nous livrons pas à Dieu comme un sacrifice, c'est-à-dire étant prêt à faire et à être tout pour Dieu, eh bien c'est évident que l'influence de Satan aura une emprise sur nous. Deuxième conseil, qui tout cela est lié bien sûr, mais je le décortique, afin que nous puissions réfléchir sur chaque aspect. Nous sommes exhortés et appelés à ne pas nous conformer au monde, hein, ne vous conformez pas au présent siècle. Mais rappelez-vous, le présent siècle, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules afin qu'ils ne voient pas la puissance de Christ dans l'Évangile. Et donc, ne pas nous conformer au monde, c'est, comme nous allons le voir ici immédiatement, dans l'immédiat, c'est ne pas nous revêtir de ce voile dont les hommes et les femmes du monde se couvrent le visage. On va pouvoir examiner cela. Et troisièmement, nous sommes exhortés à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Nous allons également explorer cela, mais déjà, sur le papier, nous pouvons voir en quoi cela consiste. Être renouvelé dans notre esprit, eh bien, c'est faire ce que nous faisons ici. C'est-à-dire, c'est explorer la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est nous nourrir de choses qui fortifient l'être, qui fortifient l'âme, qui fortifient la partie de nous spirituelle, qui fortifient l'homme nouveau. C'est ainsi que nous pouvons être ainsi transformés par le renouvellement de notre esprit. C'est-à-dire que nous renouvelons dans notre esprit des choses que nous avons vues dans le monde, entendues dans le monde, nourries par le monde. Et comment est-ce que le sens de ces conseils nous est clarifié? Je vous invite à lire le passage de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. À 16. C'est le chapitre précédent de celui que nous lisions tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 3, verset 13 à 16. Il est écrit « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne vissent pas la fin de ce qui devait disparaître. » Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Si vous lisez ici, au-delà de simplement le message principal au sujet des Juifs, vous voyez qu'il y a un message sous-jacent au sujet de ce qui nous arrive lorsque nous ne sommes pas convertis. Et la conversion, vu que c'est une affaire quotidienne, comme d'ailleurs l'esprit de prophétie nous aide à le comprendre, eh bien, il se peut que notre manque de conversion quotidienne place un voile sur notre entendement. C'est-à-dire que l'absence de conversion, c'est l'absence d'une volonté et d'une disposition à voir comme Dieu voit et à accepter et à vivre en fonction de cela. L'absence de conversion est à l'inverse. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous acceptons tout ce que Dieu dit. Hein? Tout ce que Dieu dit, nous disons, ce que tu dis, c'est ça que je veux faire. Si tu dis que je fais cela qui est mauvais, je ne veux plus faire ça. Si tu dis que ce dont tu parles dans la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je ferai. Ça, l'esprit de la conversion, c'est l'abandon. Et c'est également la volonté, la disposition de cœur à mettre notre volonté du côté de la volonté de Dieu. Et ce que j'ai marqué, donc, c'est que pour que notre esprit puisse être renouvelé, comme on l'a vu juste précédemment, c'est-à-dire que nous sommes appelés à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Eh bien, pour que notre esprit puisse être renouvelé, afin que nous ne nous conformions pas au monde, nous ne devons pas mettre un voile devant le visage de notre entendement et ainsi endurcir nos cœurs. Nous ne devons pas mettre un voile devant le visage de notre entendement et ainsi endurcir nos cœurs. Et deuxièmement, quel est le conseil positif que Dieu nous donne dans Jude chapitre 1, versets 20 à 21? Le passage, notre lecture biblique, Jude chapitre, plutôt versets 20 et 21. Mais vous, bien-aimés, donc quel est le conseil positif? Donc nous avons lu le conseil, pour ainsi dire, pas négatif, mais qui met en lumière le péché. Et maintenant, le conseil positif, c'est Jude verset 20. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Conservez-vous dans l'amour de Dieu. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Et dans le passage de, je vais écourter notre méditation, frères et sœurs, je suis désolé, je n'ai pas assez de data. Je vais juste dire que, afin que nous puissions nous conserver dans l'amour de Dieu, comment pouvons-nous le faire? Vous lirez dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9, que nous sommes appelés à nous concentrer sur toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, aimables, de bonne réputation, vertueuses et dignes de louange. Et alors, si nous faisons cela, nous pourrons nous conserver, comme la parole nous le dit, dans l'amour de Dieu. Et alors, comme c'est marqué dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, alors le Dieu de paix sera avec nous et gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et alors nous aurons une atmosphère, l'atmosphère de l'amour de Dieu, le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'Esprit? La joie. Allons-y brièvement dans Galates chapitre 5, verset 22, j'y vais brièvement. Malheureusement, je ne peux pas aller dans les détails maintenant. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, hein, agapé, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, ou comme c'est marqué ici, je l'ai écrit, je crois, c'est la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est point contre ces choses. C'est-à-dire que nous accomplissons la loi de Dieu avec cet esprit. Et lorsque nous cultivons ces qualités de l'esprit, qui sont les qualités du caractère de Dieu, les caractéristiques de son caractère, eh bien, nous sommes environnés d'une atmosphère. Et nous lisons dans dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3, que Dieu nous appelle à contempler son grand amour. Voyez quel amour le Père nous a manifester que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et lorsque nous contemplons cet amour en parallèle avec cette activité de cultiver les grâces chrétiennes, hein, le fruit ou les fruits de l'esprit, eh bien, nous réalisons mieux quel amour Dieu nous a déclaré, quel amour Dieu nous a manifesté, et nous réalisons également ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 5, versets 6 et 10. Romains chapitre 5, versets 6 et 10, où il est écrit que verset 8 plutôt, mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tel est l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque, en parallèle avec cet effort pour refuser les tentations de Satan, refuser l'influence de Satan visant à nous distraire, à nous séduire et à nous décourager, en parallèle avec cela, nous sommes appelés à nous concentrer, à contempler, à voir et à réfléchir à l'amour que Dieu a fait éclater envers nous lorsque nous étions encore des ennemis, Christ est mort pour nous. Encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et cette vision de l'amour de Dieu est destinée à nous aider à nous relever. Parce que souvent le découragement vient à travers une décadence et une mise en oubli de toutes les choses, de toute cette vocation suprême de Dieu pour nous en tant que peuple qui vivent dans ces derniers jours et qui aspirons à faire partie des 144 000. Mais alors, lorsque nous contemplons l'amour de Dieu, nous voyons qu'il y a une espérance et alors nous nous saisissons de cette espérance et alors nous sommes prêts à aller de grâce en grâce, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et à vivre cet appel, à vivre cette vocation, à vivre dans l'atmosphère du monde. Et dans la description, je vous fournirai une citation de l'esprit de prophétie qui met en lumière cette atmosphère. Mais ici, nous le voyons ici. C'est-à-dire que nous pouvons vivre dans l'atmosphère du monde et être plein de mauvais soupçons, plein de haine, plein de jalousie, plein d'amertume, plein d'offenses. Mais si nous rejetons ces choses-là, que nous nourrissons, que nous cultivons l'amour de Dieu, que nous cultivons la paix, que nous cultivons la bonté, que nous cultivons la bienveillance, alors nous nous entourerons de cet amour et nous demeurons dans cet amour, dans cette atmosphère de l'amour divin. Par la grâce de Dieu, j'explorerai plus en détail ces choses-là la prochaine fois quand j'aurai dans des circonstances qui seront plus favorables. Donc vous me pardonnerez cette interruption soudaine. Je pense que pour le moment, si nous pratiquons ce que nous avons vu aujourd'hui, nous serons beaucoup aidés. Le Seigneur nous aidera beaucoup et puisse en effet Dieu nous aider dans cette remise sur pied et dans cette vision de notre vocation à demeurer dans cette atmosphère de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je vous encourage à contempler ces questions, à réfléchir intensément sur le monde dans lequel nous vivons, l'atmosphère qui nous engouffre parfois, et à prendre des décisions en conséquence. À prendre des décisions à la lumière non seulement de cette tragique décadence, mais également de l'amour que Dieu nous a manifester l'amour que Dieu nous a exprimé par le don de Jésus, afin que nous ne périssions pas, mais que nous soyons sauvés. C'est là vraiment ce que Dieu cherche à faire pour nous, et par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir aller davantage dans les détails de non seulement cette condition dans laquelle le monde est, mais également cette condition dans laquelle le chrétien devrait être, celui qui vit le fruit de l'esprit, qui cultive ces choses et qui s'abandonne à Dieu pour vivre réellement et pratiquer la religion, pour vivre en harmonie avec cette vérité avancée. Puisse le Seigneur vraiment nous aider. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et par la grâce de Dieu, j'espère vous revoir bientôt, pas dans plusieurs mois cette fois-ci, mais sous peu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.